Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Christ en Action Évangélisation. Nous croyons qu'en l'écoutant, votre foi sera redynamisée, votre mentalité renouvelée et votre vie transformée pour vous propulser dans votre destinée de gloire.
Nous sommes encore contents de continuer avec le pasteur Jérémy. C'est une grâce pour nous, c'est une opportunité. Ça fait longtemps qu'elle était dans la maison. Accueillons-le au nom de Jésus.
Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Glorieux Seigneur. Père, merci pour ta présence. Et merci pour ton peuple qui est là ce soir rassemblé en ton nom. Nous voulons te connaître davantage, Seigneur. On veut vivre, expérimenter ta présence. Et Père, c'est ma prière pour ce peuple qu'il puisse découvrir ta présence de plus en plus, expérimenter ta gloire et vivre dans le surnaturel. Père, je prie qu'ils entrent, qu'ils demeurent, qu'ils vivent dans la dimension de l'esprit, qu'ils marchent comme des hommes et des femmes spirituels, qu'ils ne s'arrêtent pas aux choses physiques, à ce qu'ils peuvent voir avec leurs yeux, mais qui vont au-delà, qui tendent vers ce qui est en haut. Père, merci parce que tu nous as établis dans cette nouvelle naissance où toutes choses sont devenues nouvelles en nous. Tu as transformé notre esprit, tu l'as rempli de ta présence et d'une sagesse, d'une richesse, d'une grâce extraordinaire. Merci pour ce que tu as fait de nous. Merci parce que tu nous as sauvés et transformés. Et tu nous donnes le pouvoir de marcher comme des enfants spirituels. Tu nous donnes l'autorité et le pouvoir de marcher en haut, dans les hauteurs spirituelles, avec toi, Père. C'est ce que nous voulons. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons marcher dans ces hauteurs, dans ces lieux élevés, pour voir les choses comme tu les vois, pour parler comme tu parles, pour considérer les circonstances de la même façon que tu les considères. Père, merci parce que tu es un Dieu très haut, très grand, très élevé, un Dieu puissant, véritable. En toi, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mensonge. En toi, tout est parfait et véritable. Et c'est pourquoi nous t'adorons et nous voulons te servir ce soir encore, te glorifier pour ta vie, te glorifier pour ta parole, pour les richesses de ton esprit. Merci parce que ce soir, tu veux encore, par ton esprit, nous révéler les richesses et les grâces qui nous appartiennent, l'héritage que tu nous as donné en toi. Seigneur Jésus, nous te glorifions et nous t'adorons. On te bénit pour ta vie, on te bénit pour ta parole. Et ce soir, on ouvre les yeux de nos cœurs, on ouvre nos oreilles, Seigneur, pour entendre et pour voir, pour comprendre ce que tu veux nous dire. Je prie que tu nous transportes dans un lieu nouveau, que tu nous transportes dans un lieu plus élevé, afin qu'on aille, comme dit ta parole, de gloire en gloire. Père, je prie pour ceux qui parmi nous ne croient plus pour la gloire. Je prie pour ceux qui sont découragés, ceux qui sont et qui ont été tellement préoccupés par les circonstances qu'aujourd'hui ils ne réussissent plus à marcher dans l'esprit. Père, je prie pour eux aujourd'hui, afin qu'il y ait un déclic, afin qu'il y ait une révélation qui descende dans leur esprit et qui leur permette de marcher dans les choses d'en haut. Père, c'est ma prière ce soir, afin qu'on puisse vivre des expériences nouvelles avec toi, des choses extraordinaires, tout ce que tu as réservé pour ceux qui t'aiment. Et nous t'aimons, Seigneur, nous te glorifions, que notre vie puisse encore une fois te louer, te glorifier, te révérer, te magnifier. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es tout pour nous. Saint-Esprit, nous t'accueillons encore et nous t'invitons. Nous honorons ta présence. Nous voulons t'entendre ce soir. Nous voulons connaître davantage le Père, davantage concernant le royaume. Merci, Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bienvenue à chacun ce soir. À vous qui êtes sortis dans la tempête. On a commencé à a partagé hier à propos d'une parole qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 4 et au verset 1. Je vais rappeler certaines choses qu'on a vues, pour ceux qui n'étaient pas là. Où l'apôtre Jean, dans les trois premiers chapitres, était ravi en esprit. Le Seigneur Jésus lui apparaît. Il pose sa main droite sur l'apôtre Jean. Et pendant qu'il pose sa main droite sur lui, il lui parle, il lui demande d'écrire. Et le Seigneur Jésus lui montre la situation de plusieurs églises, sept églises. C'est un message pour l'époque, mais c'est un message aussi pour aujourd'hui. Et c'est un message pour son retour. Les différents types d'églises, les différents types de cœurs qui peuvent se retrouver avec les problèmes, avec les faiblesses de chacune de ces églises. Et ce sont des problèmes qu'on peut retrouver dans nos vies parfois. Et c'est comme un bilan, on a dit hier, c'est comme un bilan, un constat que le Seigneur pose ici. Il fait un constat, il nous encourage à changer, il encourage l'Église à changer, à transformer certaines dispositions intérieures. Et c'est bien de pouvoir faire des bilans dans nos vies, et je vous encourage à le faire. C'est important, c'est très important, certaines personnes ne prennent jamais le temps de le faire, parce que parfois ça fait mal de faire le bilan. Et certaines personnes aussi ne se donnent jamais de défis ou de visions, parce qu'elles ont déjà peur à l'avance de ne pas réussir cette vision. Mais je veux vous encourager, moi ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant, j'écris au début de l'année une vision en quelques phrases, vous voyez, elle est ici dans ma Bible, c'est pas très long, et c'est la vision de cette année. Ah, vous aimeriez savoir ce qui est écrit dedans, mais vous ne le saurez pas. Aimer ma femme, non, ça c'est bon, ça je le vis déjà. On peut aller de gloire en gloire. Et c'est important pour vous d'avoir une vision pour cette nouvelle année qui vient et de marcher selon cette vision. Sans vision, seul le peuple est sans frein. Sans vision, vous allez vous égarer. Sans vision, vous allez rechercher les opportunités ou courir après certaines opportunités et perdre beaucoup de temps. Mais c'est important que vous puissiez avoir une vision. Et je vous encourage vraiment à prendre un temps. Vous pouvez prendre 30 minutes, peut-être une heure, à réfléchir. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Quel est votre appel? Quelle est votre mission? Qu'est-ce qui brûle dans vos cœurs? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu voudrait pour cette année? Quels sont les efforts, les choses que Dieu vous a appelé à faire et que vous avez oublié, délaissé? Peut-être Dieu vous a parlé d'écrire un livre, peut-être il vous a parlé de témoigner à une personne, peut-être il vous a parlé d'apprendre l'anglais, d'apprendre une langue, de vous former dans un domaine particulier, peut-être pour vous-même, pour votre vie, pour votre travail, peut-être pour l'Église. En tout cas, Dieu parle de bien des façons et il parle à propos de bien des choses. Et c'est important que vous puissiez avoir une vision, ça c'est très important. Et à la fin de l'année, vous allez pouvoir faire un bilan et voir où en est la vision. Et ce sont des choses importantes. Donc Jésus fait comme un constat, un bilan de l'Église. Il montre, voilà, l'Église est telle que ça. Et on peut se voir, la Bible est une parole qui est comme un miroir dans laquelle on voit nos faiblesses, on voit aussi les choses qui réussissent. Et c'est bien, ce sont des bonnes choses. Mais après, on voit qu'au chapitre 4, il y a quelque chose de très intéressant. Il dit, après cela, donc là, Jésus n'est plus là tout à coup. Il dit, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit, monte ici. Ou encore dans notre traduction, monte plus haut. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Si nous pouvions savoir ce qui va arriver dans la suite, dans bien des domaines, on serait les gens les plus puissants sur la terre. Et Dieu veut nous amener à monter plus haut. On a commencé à partager hier cette vérité, cette importance, comment Dieu aimerait que nous puissions vivre comme des gens spirituels, marcher dans l'esprit. La parole nous invite à marcher dans l'esprit, et ainsi on n'accomplira plus les désirs, les problèmes que peuvent engendrer le fait de marcher dans la chair. Et ça, c'est un appel à l'Église. Il dit, monte plus haut. Hier, on a partagé cela, cette invitation de Dieu. C'est une invitation, c'est un désir du cœur de Dieu pour ta vie personnelle, une intimité plus grande. Le Seigneur veut, c'est sa volonté parfaite. C'est une invitation qu'il te fait. Ce n'est pas un devoir, mais c'est une invitation qu'il te fait. Il aimerait te faire vivre des expériences extraordinaires, inouïes dans sa présence, des choses que tu n'as jamais vécues. Et on a commencé à parler hier de ne pas mépriser les petits commencements. Certaines personnes entendent des prédicateurs ou des gens qui racontent des expériences surnaturelles extraordinaires et ils sont un peu dégoûtés parce qu'ils disent « mais moi, je n'ai rien vécu ». Mais c'est important de ne pas mépriser les petits commencements. C'est important de se rappeler, de se remémorer les choses qu'on a vécues avec Dieu, de ne pas les oublier, mais de les garder dans notre cœur et de serrer ça dans notre cœur et de dire « merci Seigneur parce que j'ai vécu ça grâce à toi. Merci Seigneur parce que j'ai commencé l'année comme ça et maintenant je suis ici. J'ai monté un peu plus haut. » Et je vous encourage, c'est Dieu veut que vous puissiez monter plus haut. Dieu veut que vous puissiez expérimenter une intimité plus grande avec lui. Des moments avec lui où vous allez le connaître. Vous allez apprendre à savoir qui il est. Expérimenter Dieu, goûter Dieu, manger. Il dit, venez à moi et mangez de ma chair, buvez de mon sang. Ce n'est pas simplement des paroles, c'est des expériences qu'on peut faire avec lui. Où on peut demeurer en lui dans sa présence. Et c'est un appel qu'il fait à l'Église. Et il y a une question qui a été posée par Salomon, en tout cas l'Ecclésiaste, dans Ecclésiaste au chapitre 3, au verset 18, il dit, « J'ai dit en mon cœur au sujet des humains que Dieu allait les éprouver, alors ils verront eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des humains et le sort de la bête ne sont pas différents, l'un meurt comme l'autre, ils ont tous un même souffle, et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. » Ça, c'est le discours de l'Ecclésiaste. « Tout va dans un même lieu, tout provient de la poussière, tout retourne à la poussière. Qui connaît le souffle de l'homme, des fils de l'homme, ou littéralement l'esprit ? Qui connaît le souffle, l'esprit des humains, lequel monte en haut, et le souffle des bêtes, lesquels descend en bas vers la terre ? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part. En effet, qui le ramènera pour voir ce qui arrivera après lui ? » Dieu aimerait nous faire connaître les choses qui arrivent après. Ici, dans la vision de l'apôtre Jean, Dieu veut lui montrer ce qui arrivera par la suite. Lorsqu'il est ravi en esprit, Dieu lui ouvre les yeux, il entre par cette porte, et quand il entre par cette porte, Dieu va lui montrer ce qui arrivera par la suite. Tant qu'il n'est pas entré par cette porte, il voit le bilan, il voit le constat, il voit les faiblesses, il voit peut-être certaines choses qu'il retrouve dans sa vie, mais quand il est ravi plus haut, quand il monte et qu'il traverse cette porte, c'est alors qu'il peut voir les choses qui vont arriver par la suite. Et c'est ce qu'on a appelé le livre de l'Apocalypse, des révélations. Mais il y a des révélations que Dieu veut nous donner à propos de notre vie, pas seulement l'enlèvement, pas seulement ce qui va arriver plus tard, mais des choses que nous pouvons vivre dès aujourd'hui, les arts de l'esprit, l'expérience de vivre déjà le ciel sur la terre, l'expérience de vivre déjà l'éternité, mais dans notre condition présente. C'est ce que Dieu veut à travers nous. Et l'Ecclésiaste a une vision étriquée, il a une petite vision. J'ai donné l'image hier, c'est comme une petite télévision en noir et blanc, alors qu'à côté, tu as un système extraordinaire, 4K pour ceux qui connaissent, où ce sont des images merveilleuses, fabuleuses, tellement précises, tellement belles en couleurs. Et souvent, on est dans des petites images, on a une petite vision de la vie, une petite vision des choses. On est dans nos constats, dans nos bilans, c'est bien, mais il y a plus. C'est bien, mais Dieu veut nous amener plus loin. L'Ecclésiaste Salomon a une question à laquelle il ne peut pas répondre. Il dit, il pense que finalement, puisque l'homme vient de la poussière et qu'il retournera à la poussière, eh bien, il faudrait qu'il profite de la vie, qu'il jouisse de ce que Dieu lui a donné, parce que de toute façon, après, il n'y a plus rien. Et il n'a pas la vision de l'éternité. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, malgré sa sagesse. Et ici, il parle comme un philosophe, quelqu'un qui ne comprend pas les choses de Dieu. Il dit, qui connaît l'esprit de l'homme ? Qui connaît le souffle ? C'est le même mot, souffle et esprit, ou encore vent dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et ici, la bonne traduction, c'est l'esprit, puisque le souffle, ce n'est pas très intéressant de connaître le souffle qui sort de ta bouche, mais c'est l'esprit. Qui connaît l'esprit de l'homme ? Et cette question, l'apôtre Paul va y répondre dans 1 Corinthiens au chapitre 2. Il va commencer à poser la même question, et dans cette question, il va y répondre. Il dit dans 1 Corinthiens 2, 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?» Il répond à cette question en disant finalement, qui est-ce qui connaît l'esprit de l'homme ? Eh bien, c'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Et il va commencer à partager certaines révélations par rapport à l'esprit pour enlever cette image de l'Ecclésiaste que finalement, eh bien, on est des animaux. Alors, puisqu'on est des animaux, puisqu'on est, entre guillemets, des bêtes sur la terre, il faudrait vivre selon nos besoins, il faudrait simplement être comme des animaux répondant à nos besoins physiques. On a envie de manger, on mange, on a envie de dormir, on dort, on a envie et besoin de travailler, on travaille, on a besoin d'argent, et bien on court après l'argent. L'apôtre Paul ici veut amener l'Église beaucoup plus haut à cause de la nouvelle alliance, à cause de la nouvelle naissance. Il veut nous amener plus loin. Dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 9, il dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a révélées ou a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. » Donc, il est en train de nous dire « Ne marchez pas comme des animaux, ne fonctionnez pas selon l'homme charnel qui évalue les choses, qui vit sa vie dans le naturel. » Arrêtez de regarder avec vos yeux, de vouloir toujours entendre avec vos oreilles et avec le plus profond de votre être, votre cœur, votre esprit, ou ici votre âme, votre volonté, de réfléchir sur les choses, de penser, d'être tout le temps en train de calculer, de raisonner. Il dit il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus élevé. Et ici, il va commencer à dire que Dieu a préparé des choses pour ceux qu'il aime et que Dieu a commencé à nous les révéler par l'Esprit. Car il dit ici, c'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par grâce. Et il dira cette parole puissante, mais l'homme animal ou encore psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, parce que c'est une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Beaucoup de croyants, parce qu'ils ne passent pas du temps dans la présence de Dieu, parce qu'ils n'ont pas été éduqués à comprendre comment fonctionne leur esprit et la présence de Dieu, parce que certainement ils manquent de soif, ils vivent comme des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne font pas beaucoup d'expériences avec Dieu parce qu'ils sont préoccupés avec les choses de ce monde. Ils sont préoccupés dans leurs études, ils sont préoccupés dans leur travail, ils sont préoccupés à la recherche de l'argent, préoccupés à répondre à des problèmes. Et on réalise bien que quand on a des problèmes et qu'on commence à être préoccupé à ces choses-là, on n'a plus de temps parfois pour Dieu, ou simplement on n'a plus de pensée, on n'a plus de cœur pour les choses de Dieu. On délaisse la parole de Dieu, on délaisse la prière et on redevient l'homme animal. On marche à nouveau comme l'homme animal. On se réveille avec ce problème, on essaie de le résoudre toute la journée et le soir, ce problème est encore là. Finalement, on fonctionne comme des animaux. On a un problème et on veut y répondre. J'ai chez moi tous les jours des biches qui passent juste derrière chez moi et je les voyais encore hier, elles étaient là. Et qu'est-ce qu'elles faisaient ? Elles passaient leur temps à manger et à chercher leur nourriture. Ça, ce sont des animaux. L'homme n'est pas censé fonctionner comme ça. L'homme n'est pas censé faire ça. Ça a été le problème d'Adam et Ève. Ils ont voulu encore manger, encore plus, et finalement, ils sont tombés. Alors que Dieu avait prévu tellement de choses pour eux, mais lorsqu'ils sont tombés, ils ont réalisé leur nudité. Ils ont réalisé que voilà, c'était la conséquence du fait d'avoir marché comme des animaux. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous amener dans des lieux élevés. Il veut que nous puissions connaître les choses spirituelles qui nous appartiennent. Parce qu'en vérité, on va être ici pour un peu de temps. Une vapeur et on va disparaître. Dans quelques instants, dans quelques temps, on ne se verra plus sur la terre. On ne sera plus d'ici. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas de la terre. C'est juste un passage. C'est juste quelques temps. Et le but de ta vie, ça ne doit pas être « je veux profiter à tout prix ». Je veux avoir le meilleur des trucs, la meilleure des maisons, toujours le meilleur, toujours le meilleur. Parce que tu vas courir après des vanités, des choses qui ne nourrissent pas, des choses qui ne durent pas, des choses qui ne demeurent pas. C'est pourquoi il est important dans cette vie présente, de pouvoir poursuivre les choses éternelles. Commencer à les poursuivre et commencer à les goûter. Commencer à les vivre, commencer à les expérimenter. Afin que lorsque nous entrerons au ciel, on n'ait pas un choc culturel, mais qu'on reconnaisse certains éléments, qu'on reconnaisse certaines choses parce qu'on les a déjà vécues. Peut-être on ne savait pas exactement, on ne pouvait peut-être pas les dire exactement comment c'était, mais on reconnaîtra le langage. Parce qu'on a fonctionné dans un langage spirituel. Parce qu'on a marché comme des hommes et des femmes spirituels. Il dit, lequel des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Il y a des choses que Dieu veut nous dire et il va nous les dire à travers notre esprit. C'est pourquoi c'est important de connaître comment fonctionne votre esprit. C'est important de passer du temps à prier en langue. C'est important aussi de passer des temps de jeûne. Parce que quand tu jeûnes, ton corps va, entre guillemets, s'affaiblir. Mais ton esprit, si tu recherches Dieu pendant que tu jeûnes, eh bien, il va s'élever, il va monter plus haut. Et tu vas réaliser que, alors que ta chair était bien haute et ton esprit plus bas, eh bien, tout à coup, ton esprit va commencer à prendre une plus grande importance. Et c'est là qu'on peut vivre des révélations extraordinaires. C'est tellement important. Au moins, en tout cas, je vous encourage au moins une fois par année à avoir un temps de jeûne. C'est tellement important. Il y a des chrétiens, ils n'ont jamais jeûné, ce n'est pas normal. Vous passez à côté de bénédictions incroyables. Il y en a d'autres, ils jeûnent et bon, ils attendent, ils regardent leur montre. Bon, ça, ce n'est pas des jeûnes extraordinaires. Mais il y a le jeûne qui vient parce qu'on a soif de Dieu, parce qu'on en a assez de vivre dans le naturel, dans la poussière, et on veut vivre quelque chose de plus. Et ça, Dieu répond à ça. Il répond à notre soif. Sachez-le, si vous avez soif, Dieu répondra. Si vous vous approchez de lui, il s'approchera de vous. C'est évident, c'est une évidence totale. Dieu ne peut pas mentir. Si tu passes du temps à chercher Dieu, obligatoirement, il s'approchera de toi. C'est-à-dire que tu vas le découvrir de plus. Tu vas connaître plus de lui. Il va te révéler des choses. Dieu donc veut révéler des choses par son esprit. Pour nous, il veut nous les révéler. Il veut qu'on puisse vivre des choses extraordinaires avec lui et il nous appelle à tendre vers les réalités d'en haut. Et l'apôtre Paul le disait, on ne reviendra pas dessus, mais dans Colossiens chapitre 3, il nous dit « Puisque finalement vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez, tendez vers les réalités spirituelles, tendez vers les choses d'en haut. » Pourquoi les apôtres ont pu vivre de telles choses? Comment ils ont pu persévérer, demeurer alors qu'ils étaient persécutés? C'est parce qu'ils tendaient vers le haut. S'ils avaient été des hommes de la chair, des hommes de la poussière, ils n'auraient pas pu persévérer. Mais il nous dit de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non à celles qui appartiennent à la terre. Alors j'ai commencé à dire hier que finalement, ça commence dans l'âme, ça commence dans la volonté, ça commence dans la pensée. Si vous voulez toucher Dieu, si vous voulez vivre plus avec Dieu, ça va commencer par la pensée, ça va commencer par la volonté, donc l'âme, ce qui est entre guillemets psychique. Oui, l'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, mais ça commence quand même dans l'âme, dans la pensée, puisque c'est de là que nous vient la volonté. Tu dois vouloir. Ça veut dire que de la même façon que tu peux réfléchir à un projet et prendre du temps pour ce projet, de la même façon que tu peux prendre du temps pour t'habiller le matin, pour te laver, pour te maquiller, si tu es une femme, les hommes, il ne faut pas se maquiller. Tu prends du temps pour cela. Tu as un objectif et tu vas prendre du temps et tes pensées sont tournées vers la réalisation de cet objectif. C'est simplement la volonté. C'est la même chose avec Dieu. Tu prends la même chose, tes mêmes pensées, mais tu les tends vers les choses d'en haut. Tu les tournes vers Dieu. Ça veut dire que chaque jour, de la même façon que tu vas tendre chaque matin à boire ton café ou je ne sais quoi, tu tends vers cette chose-là. Peut-être certains d'entre vous, tous les matins, vous allez au Tim Hortons ou je ne sais où, ou alors vous allumez votre cafetière, vous faites un café. Votre corps a été habitué à cela. Vous y pensez peut-être même pas, mais vous avez habitué votre corps à faire cela. Pourquoi ? Parce que vous avez des besoins qui sont, en tout cas des choses qui sont devenues des besoins. Et c'est pareil avec Dieu. Vous devriez et nous devrions tendre quotidiennement vers les choses d'en haut. Est-ce qu'on veut vivre des choses avec Dieu ? Ça se passe en haut, ça ne se passe pas sur la terre. Il dit monte plus haut, monte plus haut. Les gens ils veulent fouiller sur la terre et trouver Dieu, mais Dieu n'est pas dans la terre. Dieu n'est pas dans la poussière. Si vous creusez longtemps, vous trouverez l'enfer, mais vous trouverez pas Dieu. C'est pourquoi il faut tendre vers les réalités spirituelles. Ça, c'est une soif. Ça, c'est un désir. C'est un désir de connaître Dieu. Au début, on ne comprend rien. Au début, on ne comprend pas grand-chose. Et même d'ailleurs, quand on mourra, on comprendra encore pas énormément. Mais quand même, lorsque nous tendons vers lui, lorsque nous avons soif de lui, il nous révèle des choses extraordinaires. Il nous révèle des choses cachées. Et il dit, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre. Je ne sais pas ce qui dans votre vie appartient à la terre, mais la Bible est très claire, tu dois faire mourir cette chose-là. Certaines personnes font des choses impures, ça appartient à la terre, tu dois faire mourir cela. Certaines personnes, c'est la jalousie, tu dois faire mourir cela. Certaines personnes, c'est le compromis, tu dois faire mourir cela. Certaines personnes, c'est le mensonge, tu mens constamment, eh bien, fais mourir cela. Pourquoi ? Parce que lorsque tu voudras tendre vers le haut, il y aura ta pensée qui tendra vers le bas et tu seras constamment en train de lutter contre la chair, tu seras en train de lutter contre le Saint-Esprit aussi, de le mépriser. Tu seras l'homme d'un moment, ce dont l'apôtre Jacques parle. Cet homme qui est là, et il ne sait jamais finalement, en haut ou en bas, en haut ou en bas. On doit tendre et continuer à tendre et faire mourir les choses qui appartiennent à la terre. Maintenant, on peut aller ensemble dans 2 Corinthiens, Au chapitre 3, on a partagé hier ce passage de Ésaïe 55 au chapitre 11, 53, pardon, au chapitre 11, où il est écrit à propos de Jésus que par les tourments de son âme, il rassasira ses regards. En Jésus, il a travaillé dans son âme, dans ses pensées, pour accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas simplement spirituel. Ça se passe dans nos pensées. En fait, je dis cela parce que ça peut nous aider à fonctionner, à comprendre comment ça fonctionne. Des fois, on s'imagine que, eh bien, je ne sais pas, il faut regarder à l'intérieur de nous profondément, profondément, se concentrer profondément pour trouver les choses de Dieu, mais ce n'est pas cela. C'est une histoire de volonté. C'est une histoire de mettre nos pensées vers les choses d'en haut. Nos pensées qui se tournent vers les choses d'en haut. Tes pensées qui commencent à se tourner vers Dieu, et alors à ce moment-là, tu vas être immergé, rempli de louanges à Dieu. Finalement, tu remplis ton âme, tu remplis tes pensées de l'atmosphère divine. Tu vas remplir, par exemple, tes pensées de louanges. Donc, tu vas te mettre un CD de louanges et régulièrement dans ta vie, chaque jour, tu passes du temps dans la louange, à écouter des chants de louanges. Pourquoi ? Parce que ça, tu es en train de tendre vers les choses d'en haut. Tu médites la parole pour nourrir ton esprit. Ça montre encore une fois que tu tends vers les choses d'en haut. Et en fait, tu fais un certain nombre de choses dans ta vie avec ta pensée, avec ta volonté, avec ton intelligence pour chercher, pour tendre vers les choses d'en haut. Jésus, par le tourment de son âme, par le travail de son âme, de son intelligence, la Bible dit qu'il rassasira ses regards par la connaissance qu'ils ont de lui. Donc Jésus passait du temps à réfléchir. Jésus passait du temps à prier. Jésus passait du temps à penser aux gens, à penser à là où il voulait aller. Il parlait à Dieu, oui, il parlait à Dieu en esprit, mais il parlait aussi à Dieu avec intelligence. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, et en tout cas il ne dira pas, ne priez pas avec l'intelligence, mais il dira, priez avec l'intelligence, mais aussi priez avec l'esprit. Jésus dira, il viendra un temps où ceux qui m'adorent, ceux qui adorent le Père, l'adoreront en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'un contre l'autre, les deux peuvent aller ensemble. Et dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, au verset 5, l'apôtre Paul va dire, « Non que nous ne soyons pas par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient de Dieu. » Il dit ici, c'est vrai, on n'est pas bête. On a une pensée, on a une intelligence, on est capable de concevoir des choses par nous-mêmes. Mais il dit et il reconnaît que notre capacité vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, c'est spirituel. Donc, il comprend que peut-être il met ses pensées dans un projet, il met ses pensées et il les tend vers Dieu, mais il comprend que sa capacité est divine, elle est surnaturelle. Cette capacité est divine. Il dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, au verset 6, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère de son visage, combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas glorieux ? La chair, c'est la mort. La chair, c'est la poussière. Si vous vivez constamment en voulant satisfaire votre chair, ce sera très difficile de vivre des fortes expériences avec Dieu. Vous serez constamment limité. Et vous allez passer à côté de bien des bénédictions, mais surtout d'une façon de vivre votre vie différente. Vous pouvez vivre, et quelqu'un peut être juste à côté de vous, et sans même le réaliser, il ne vit pas dans la même dimension. Il est dans une dimension plus élevée. Il peut se retrouver, par exemple, devant une même situation à vos côtés, et vous, ça vous met en colère, vous ne pouvez pas supporter cette chose-là, ça vous empêche de dormir, mais lui vit la même situation, dans les mêmes circonstances, et pourtant ça ne lui fait rien, si ce n'est de se confier en Dieu, si ce n'est de vivre encore plus de choses avec le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une dimension supérieure. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Ça suffit de se fâcher, de se mettre en colère pour des choses naturelles. Ça suffit de rester la terre dans la poussière, le nez dans la poussière, la tête dans la poussière, dans les choses et se perdre dans des histoires d'argent, dans toutes sortes de problèmes. Bien sûr, on a des choses à régler dans cette vie présente, dans cette vie, mais ce n'est pas ça notre but. Ce n'est pas ça le but de notre vie. Ça ne doit pas être ça, notre recherche. Certaines personnes, elles arrivent elles aspirent toute leur vie à arriver à quelque chose et à peine elles sont entrées dedans, elles meurent. C'est terrible. Si au moins nous pouvons rechercher les choses d'en haut, les choses de Dieu, nous ne mourrons jamais. L'image de la loi, c'est ce ministère de la mort, c'est la lettre qui tue, c'est l'image de la chair, cette chair qui ne connaît pas Dieu. Et l'image de cette nouvelle alliance, l'image du sang, l'image de l'esprit, c'est quelque chose de beaucoup plus glorieux. Rappelez-vous, lorsque Dieu a fait l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Qu'est-ce que Dieu fait au début ? Il forme l'homme de la poussière de la terre. Et la Bible dit que même les animaux, Dieu les a formés à partir de la terre. Par contre, dans et en l'être humain, il souffle un souffle de vie. Ça, c'est ce qui est éternel. Ça, c'est ce qui va demeurer. Ça, c'est votre vrai vous. Votre vrai vous, ce n'est pas l'enveloppe qui a été formée de la poussière, comme on peut former un vase ou comme on peut former une sculpture. Mais c'est ce que Dieu a soufflé à l'intérieur de vous. C'est votre esprit qui connaît Dieu. C'est ça votre vrai vous. Alors il faut se connecter à Dieu avec votre esprit, avec votre cœur. D'abord la volonté, mais ensuite entrer dans l'esprit. Marcher dans l'esprit. C'est pour ça que dans la prière, par exemple, vous pouvez commencer à prier, entre guillemets, dans la chair ou plutôt dans l'âme, mais vous entrez dans l'esprit en priant en langue. Et là, vous vous connectez à une dimension supérieure. Au verset 9, il dit « Si le ministère de la condamnation a été glorieux, à bien plus forte raison, le ministère de la justice est supérieur en gloire. » Et là, il parlera de Moïse qui se mettait un voile devant son visage. Ce n'est pas normal aujourd'hui. On ne devrait pas se mettre un voile sur le visage. On ne devrait pas être bloqué. On ne devrait pas être limité. On ne devrait pas vivre dans des choses de la terre, dans la mort. Ce ne sont pas les choses que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous élever. Dieu veut nous amener beaucoup plus haut. Et au verset 18, nous lisons, « Nous tous qui le visage maintenant dévoilé, reflétons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » On doit vivre des choses avec Dieu. On doit expérimenter des temps de gloire, des temps de visitation, des temps de transformation où tu es tellement encouragé, tellement excité d'avoir vécu quelque chose avec Dieu. Ce ne sont pas des choses que ta main pourra toucher peut-être. Tu ne pourras peut-être pas mettre de mots sur ce que tu as vécu. Tu ne pourras peut-être pas le décrire, mais tu seras nourri spirituellement. C'est encore plus fort que même si tu l'avais touché, encore plus fort que si tu l'avais vu peut-être. Encore plus fort que si tu avais pu donner des paroles à cette chose-là. Ça se passe en esprit, ça se juge dans l'esprit. Au verset 5, il dit « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes » du chapitre 4. C'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons et nous vous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et s'il dira « Nous portons ce trésor dans des vases de terre, donc de poussière, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Le fait de vivre dans ce corps de chair, ça a un but, c'est que toute la gloire soit rendue à Dieu. Mais il dit en même temps que peut-être on est des vases de terre, mais ce n'est pas parce qu'on est des vases de terre qu'on doit vivre comme des vases de terre et qu'on doit être rempli de terre ou rempli d'éléments physiques. Ce n'est pas parce que tu es un vase de terre et ce n'est pas parce que tu es fait de chair et d'eau que tu dois être rempli de choses physiques, de pensées humaines, d'or et d'argent, de convoitises. Parce qu'en fait, Dieu veut te remplir, ici nous lisons, de sa gloire. Il veut te remplir de gloire. Il veut te remplir d'une puissance supérieure. Une puissance qui dépasse la puissance de la chair. Une puissance qui dépasse les éléments physiques. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et s'il parlera des persécutions qu'ils vivent, il dira « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus. Il parle de certaines expériences qu'il vit dans la chair, mais à la fois, il dit que ce n'est pas malgré toutes ces persécutions, malgré cet abattement, malgré le fait d'être désemparé, d'être persécuté, d'être même parfois abattu, ils vivent encore le surnaturel. Ils arrivent, ils réussissent à aller bien au-delà de cela, et ils font même de ces temps difficiles des possibilités pour vivre des choses glorieuses avec Dieu. Au verset 16, il dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même lorsque notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ça, c'est le travail de l'onction. Ça, c'est le travail de la présence de Dieu dans un homme. Ça, c'est le travail de la puissance de Dieu dans l'homme et la femme spirituelle qui cherchent de Dieu, qui passe du temps avec Dieu. C'est un homme, une femme spirituelle, elle ne perd pas courage, il ne perd pas courage. Pourquoi ? Parce qu'il ne fonctionne pas selon l'homme extérieur. Il fonctionne et il a appris à fonctionner dans l'homme intérieur. L'apôtre Pierre dira, il parlera aux femmes, il dira « Ne mettez pas toute votre attention vers les choses extérieures. Votre attention vers les habits, vers... Les bijoux, etc., vers l'apparence. Il dit, mais occupez-vous de la parure du cœur, l'esprit inaltérable. Occupez-vous de l'esprit, ce qui est intérieur en vous. Alors il ne dit pas ne vous habillez plus maintenant ou ne pas s'habiller comme il faudrait, mais il dit que votre attention, votre pensée devrait être tournée vers votre être intérieur. Souvent, on a fait l'erreur de se préparer 30 minutes d'une manière totalement physique, on s'est nourri, on s'est habillé pour aller à l'église, mais on ne s'est pas occupé de l'homme intérieur. Ça, c'est un gros problème. L'homme spirituel, il se renouvelle de jour en jour. Pourquoi ? Parce que ses pensées sont tournées chaque jour vers Dieu. Ses pensées sont tournées vers Dieu. Il refuse que les circonstances et les problèmes l'amène dans l'abattement total, l'amène dans le désespoir, l'amène finalement à ne plus vivre d'intimité et de communion avec Dieu. Je veux vous encourager, si vous passez par des temps difficiles, si vous vivez des expériences difficiles, et si en 2017 vous en vivez, et peut-être que vous en vivrez des temps difficiles, prenez la résolution dès aujourd'hui que ces choses-là ne vous empêcheront pas de chercher Dieu, ne vous enlèveront pas, ne vous voleront pas votre intimité avec Dieu, parce que c'est le but. La chair et beaucoup de choses dans ce monde, il y a beaucoup d'influence, il y a beaucoup de voix dans ce monde. Elles sont faites pour nous empêcher de vivre dans l'esprit. Quand tu es dans l'esprit, dans les hauteurs spirituelles, peut-être tu as vécu des temps forts avec Dieu, des temps où peut-être certaines personnes ont vécu la gloire et on vient les toucher comme ça. Et tout de suite, ils redescendent parce qu'on les rappelle dans la chair. Il y a dernièrement mon pasteur qui était là et en prêchant la parole de Dieu, il avait terminé, il était en train de clôturer, la puissance de Dieu est tombée sur lui et il était là au sol et il y a quelqu'un qui n'est pas habitué à l'onction qui est venu derrière lui et il voulait lui mettre une serviette sur la tête. Bon, c'était gentil, mais on ne touche pas à la gloire de Dieu. On ne touche pas à l'onction. On fait très attention à ça. Il y a des gens qui ont commencé à vivre des choses avec Dieu. Et c'est comme un enfant qui est là, vous savez, il prend par le pantalon son père, comme ça, pendant la prière, et il le ramène dans le naturel. En fait, on peut être très haut, mais on nous ramène dans le naturel simplement en bougeant notre chair. Il faut qu'on soit en haut. Il ne faut pas qu'on soit dans la chair. Il ne faut pas que de nous-mêmes, on commence à nouveau à agiter la chair, à agiter la poussière. Quand on agite la poussière, quand je passe le balai dans mon garage, qu'est-ce qui se passe ? Parce que la voiture rentre dedans et l'hiver, il y a beaucoup de terre, eh bien, ça met plein de poussière partout. Il ne faut pas que tu passes ton temps et tes pensées dans les circonstances et dans les problèmes. Pourquoi ? Parce que tu vas être embué, tu vas mal respirer, tu vas respirer des choses qu'il ne faut pas. Reste en haut. Reste en haut. Souvent, on est dans la poussière parce qu'on ne s'est pas réellement confié en Dieu. Il faut se confier jusqu'à ne plus avoir peur. Il faut se confier jusqu'à avoir une confiance totale que tout se passera bien. Il faut se confier en Dieu et lui donner toutes ces choses au point où tu réalises que tu n'es plus le propriétaire. Réellement, tu lui as donné ce problème. Réellement, tu lui as donné ta maison, tu lui as donné ton condo, tu lui as donné cette voiture qui ne fonctionne plus. Ce n'est plus ton problème, tu lui as donné dans la prière. Tu t'es confié en lui, maintenant, c'est le problème de Dieu. Maintenant, tu te confies en lui et Dieu honorera ta foi, il honorera ta confiance, il honorera le fait que tu n'as pas voulu être le propriétaire et vouloir tout contrôler, mais tu lui as simplement donné cette chose-là, tu lui as donné ton aval, ta bénédiction, entre guillemets, la possibilité d'agir, et il le fera parce qu'il est bon. Mais tant que ça t'appartient, eh bien, Dieu ne le prendra pas parce que c'est seulement le voleur qui fait ça. Alors il dit, notre âme intérieure se renouvelle de jour en jour. Ton être intérieur doit être plus fort qu'il était il y a un an. Il doit être plus fort. Quand j'ai commencé à vivre des choses dans l'esprit, il y a une voix qui est venue rapidement me dire, mais ces choses-là, tu ne vas plus les vivre. Et un jour, je lisais un livre d'un homme de Dieu, et quand il a commencé à vivre des choses dans la gloire de Dieu, il a eu cette même voix qui lui a dit, de toute façon, ça ne va pas durer. Ce que tu vis, ça ne va pas durer, c'est juste pour un moment. Vous savez, ça, c'est la voix satanique. Elle vient vous dire, de toute façon, c'est juste pour un moment, ça ne va pas durer. Alors que la Bible nous dit que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Il se fortifie. Bon, ici, c'est le fait de se renouveler. On peut imaginer que c'est comme une source d'eau. Il y a des fleuves qui arrivent, l'eau se renouvelle, c'est une bonne chose. Mais on a aussi le verset qui dit que Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire. Donc, ce n'est pas seulement un renouvellement, mais c'est de gloire en gloire. En fait, ce qui coule en nous est beaucoup plus fort, est beaucoup plus puissant. Tu vas de gloire en gloire. C'est ce que Dieu t'appelle à vivre. Et il dit, car un moment de légère affliction produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Lorsque tu es affligé, et ici ce n'est pas à cause des choses de la terre, parce que le fait d'être affligé parce que tu n'arrives pas à payer tes factures, ça ne va pas t'apporter un poids éternel de gloire. Mais lorsque, parce que tu t'es fixé vers les choses de Dieu, parce que tu t'es donné des objectifs spirituels, parce que tu avais à cœur le royaume de Dieu, parce que tu t'es dit, non, moi, ma famille sera sauvée, parce que tu as prié pour eux, parce que tu as prié pour elles, parce que tu t'es donné pour eux. Et ça a apporté de l'affliction à ton âme, par les tourments de son âme. Il rassasiera ses regards. C'est dur dans la chair, pour nos pensées, de porter quelqu'un à Dieu, d'amener quelqu'un dans le royaume de Dieu. C'est dur d'entrer dans l'intercession. On entre dans l'intercession et on gémit comme une femme qui est sur le point d'accoucher. C'est dur, ça fait mal, c'est difficile pour la chair. Mais ça produit pour nous un poids éternel de gloire. Lorsque tu es affligé à cause des choses spirituelles, lorsque tu es affligé parce que tu marches avec Dieu, tu veux que les choses réussissent, tu veux que les choses avancent. Alors Dieu dit que ça portera un poids éternel de gloire dans ta vie. Et comme je l'ai dit, on est ici pour un peu de temps. Un peu de temps. Tu fermes les yeux, tu les réouvres, on n'est plus là. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Pour lui, 1000 ans sont comme un jour comme 1000 ans. On est là pour tellement peu de temps. Mais l'homme animal, il est comme une vache qui regarde les voitures et tu peux les regarder 24 heures par jour, c'est tellement long. C'est long, tout paraît long. Mais quand tu es dans l'esprit, il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'histoire de temps. Quand tu es dans l'esprit, tu commences à penser à l'éternité. Vous savez, c'est comme vous conduisez. Moi, parfois, je conduis pour aller, par exemple, à Montréal. Bon, tu vas conduire une heure. Tu as l'objectif de une heure. Au bout de 30 minutes, tu commences déjà à dire, bon, j'ai hâte d'arriver. Surtout comme quand tu es sur le départ. Tout à l'heure, j'aurais hâte d'arriver chez moi. Par contre, quand tu pars en vacances, par exemple, et que tu vas faire 8 heures de route, tu n'en as pas marre au bout de 30 minutes. Parce que tu t'es mis en disposition de faire 8 heures de route. Tu en auras peut-être assez au bout de 5 heures ou de 6 heures. Alors que quand il s'agit de faire une heure, tu es déjà fatigué au bout de 30 minutes. Un moment de légère affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Lorsque tu regardes à l'éternité, ça va passer vite. Lorsque tu regardes à l'éternité, quand tes dispositions intérieures sont vers les choses d'en haut, ça va passer vite. Et les afflictions du temps présent, ça ne va pas te bloquer, ça ne va pas t'empêcher de vivre dans l'esprit parce que tu n'es déjà plus là. Tu n'es pas un homme de la terre. Tu n'es pas la femme d'un moment, l'homme d'un moment. Tu vis dans les réalités spirituelles. Et il continue aussi, nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, moi, je ne regarde même pas les choses visibles. Ils étaient là, Paul et Silas, dans la prison, on les avait frappés, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne regardent pas aux choses visibles. Mais je souffre, Seigneur, j'ai mal, Seigneur. Ma chair, pourquoi tu as permis ça? Voilà, je saigne. Ils ne regardent pas aux choses visibles. Ils tendent vers les choses d'en haut. Ils tendent vers les réalités spirituelles. Comment ils ont pu faire ça? Ils ont appris. Ils ont appris à disposer leur cœur, à disposer leurs pensées vers l'esprit, dans l'esprit, à soumettre leur volonté, à soumettre leur chair à leur esprit, afin que l'esprit domine au-dessus de la chair. Tu peux vivre des choses dans ta chair difficiles, mais si tu marches dans l'esprit, tu vas aller plus loin. Un jour, on a lapidé l'apôtre Paul et les gens l'ont laissé à demi-mort. Vous savez, ils avaient l'habitude de lapider des gens. Ils savaient comment faire. Ils pensaient qu'il était mort, mais les disciples l'ont entouré. Et le lendemain, il prêchait à nouveau l'évangile. Imaginez-vous. Est-ce qu'il fonctionnait dans la chair? Non. Pourquoi? Parce qu'il aurait peut-être complètement abandonné. Il aurait arrêté. Ou alors il aurait pris 6 mois de repos dans la peur où il serait allé dans une autre contrée. Mais dès le lendemain, à nouveau, il prêche l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il est un homme spirituel. Parce qu'il marche dans l'esprit. Et parce qu'il marche dans l'esprit, le Saint-Esprit le fortifie. Et c'est ce qu'on va voir ici. Nous savons en effet que si notre demeure terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite. Voyez sa pensée, sa mentalité. Dans sa pensée, c'est tellement clair. Il en parle d'une façon très claire, avec beaucoup de clarté. Il dit « mon corps, c'est juste une tente ». Et certaines personnes, ils s'occupent de cette tente comme si c'était leur palace éternel. Mais c'est juste une tente. Certaines personnes, elles sont tellement fâchées, dégoûtées, elles ne veulent même pas sortir de chez elles lorsqu'elles ont un bouton sur le nez. Pourquoi? Parce que toute leur attention est portée vers cette tente. Mais cette tente-là, elle va disparaître. Elle ne sera plus dans un instant, dans peu de temps. Par contre, l'esprit vivant en toi, ce que tu es réellement, ça va continuer pour toujours. Jamais tu ne mourras. Ton corps, oui, il va mourir, lui. Il va retourner à la poussière parce qu'il n'est rien. Mais l'esprit éternel que Dieu a mis en toi, qu'il a soufflé en toi, cet esprit-là demeurera éternellement. Il dit, nous avons dans les cieux donc un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite par la main des hommes. Parce que si c'est fait par la main des hommes, eh bien ça mourra quand l'homme disparaît. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désireux de revêtir notre domicile céleste par-dessus tout ou par-dessus l'autre, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Il y a une recherche chez les apôtres, une recherche des choses spirituelles, une recherche des choses célestes qui les amène à gémir. Ils aspirent, ils soupirent comme David, qui soupirait après Dieu. Ils soupirent après les choses célestes. Et pendant qu'ils soupirent après les choses célestes, et ce qui est mortel en eux commence à être absorbé par la vie. Il est voilà que la mort commence à s'attacher à lui. Voilà qu'on vient le lapider, mais tout à coup, parce qu'il s'est attaché aux choses d'en haut, ce qui est mort en lui est maintenant absorbé par la vie, par la puissance de Dieu. Il a la capacité de relever quelqu'un d'entre les morts. Il a la capacité, par son esprit et par sa parole, de relever une armée dont il ne restait que des ossements. Ça, c'est notre Dieu. Quand nous nous confions en lui, quand nous marchons dans l'esprit, il a cette capacité. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit, le Saint-Esprit en nous. On a juste commencé à goûter. On a juste commencé à expérimenter. Et c'est déjà tellement glorieux. Il nous a donné les arts de l'esprit, ça nous appartient. Il y a des promesses, il y a des choses qu'on doit vivre. Et il dit, nous sommes toujours donc pleins de courage et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons. Ou encore, c'est pourquoi nous voulons maintenant marcher, non par la vue, mais par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Rappelez-vous, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté à l'intelligence ou au centre de l'être de l'homme, ce que Dieu a révélé pour nous. Comment on peut entrer dans la révélation? en marchant par la foi. Comment on peut entrer, recevoir de Dieu, vivre des expériences avec Dieu, en gémissant, en cherchant à revêtir notre nature céleste. Et c'est ce qu'il dira au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Malheureusement, beaucoup de personnes ne connaissent pas cette créature. Beaucoup de croyants ne connaissent pas encore cette nouvelle nature parce qu'elle fonctionne comme des bêtes, comme des animaux, à se réveiller, à manger, à faire les choses parce qu'elles ont besoin d'argent et encore manger, et encore s'habiller, et se coucher, et c'est comme ça tous les jours de leur vie, alors qu'il y a une dimension supérieure, alors qu'il y a quelque chose de beaucoup plus élevé, il y a quelque chose de beaucoup plus glorieux, de beaucoup plus puissant. Et l'apôtre dira dans le chapitre 5, il dit, c'est pourquoi maintenant nous ne connaissons plus personne selon la chair. Leurs pensées, c'était tellement clair. Ils étaient sur des lieux élevés. David avait prophétisé des choses. Prophétiquement, il avait vu, il avait parlé des choses à propos de la nouvelle création, à propos de notre nouvelle nature. Lorsqu'il disait, moi je suis sur des lieux, je marche sur des lieux élevés comme ces animaux, comme ces biches qui sont là et qui peuvent aller sur des lieux élevés, ça parle non seulement de certaines réalités qu'il vivait, mais lui, il était dans la lettre qui tue. Il était dans le ministère de la mort. Nous sommes dans le ministère de l'esprit, là où il y a beaucoup de liberté, là où il y a beaucoup de gloire, là où il y a beaucoup d'espérance, là où il y a beaucoup de joie, là où il y a une clarté, là où Dieu ouvre nos yeux, il éclaire nos yeux. Et dans ce qu'il a prophétisé, il a parlé de ces lieux élevés. Ce sont des lieux que Dieu veut te faire découvrir. C'est une façon de marcher dans cette vie présente, dans les choses d'en haut. Et c'est tellement glorieux. Et ce soir, c'est le désir de Dieu de vous amener à cela. La Bible dit que l'homme de rien abandonne ses pensées. Que l'homme qui est vain, qui se confie dans les choses et dans les gens, que l'homme qui se confie dans les hommes, qui se confie dans les opportunités humaines, que cet homme-là abandonne ses pensées, qu'il revienne à Dieu. Et alors, si on a été un homme de rien, si on a fonctionné comme un homme animal ou comme un homme psychique, c'est important de se dire, oui, c'est vrai, c'est pas normal. C'est pas normal que tous les jours de ma vie, je sois préoccupé par ces choses. C'est pas normal que constamment, ce qui m'anime, ce qui me nourrit, ce sont des choses de la vie. C'est pas normal que chaque semaine, j'ai hâte au week-end simplement parce que je vais pouvoir m'amuser et faire des loisirs et faire ceci et me reposer. Non, c'est pas normal. Je veux tendre vers les réalités spirituelles. Tendre vers ces choses-là. Tendons ensemble, frères et sœurs, vers les choses de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des révélations, il y a des expériences avec lui que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Est-ce que vous aimez Dieu? Alors Dieu a préparé des choses pour vous. Il a préparé des choses pour moi. Il va m'attendre là. Je sais qu'il m'attend. Déjà là, il m'attend dans ma voiture. Juste pour être avec moi. Je serai lui et moi. On sera tous les deux. Et je vais parler dans l'Esprit. Comme je le fais à chaque fois que je suis dans ma voiture. Je vais prier dans l'esprit. Et là, il y a une communion. Rappelez-vous, 1 Jean nous dit, nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Le verbe ici qui est employé en grec, c'est un présent continu. Ça ne s'arrête jamais. Notre communion est constamment, 24 heures sur 24. Où? Dans notre tête? Non. Dans notre chair? Non. Dans notre esprit. Nous sommes constamment en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau. Et j'aimerais maintenant vous demander, s'il vous plaît, de fermer les yeux. Et je voudrais demander à quelqu'un ici qui n'est pas sauvé. Si tu meurs ce soir, si tu meurs en sortant d'ici, tu n'es pas certain à 100% que le Seigneur va te recevoir, que Dieu va te recevoir. Je ne sais pas ce qui provoque ce doute chez toi. Peut-être c'est du péché, peut-être c'est de la crainte, peut-être c'est un manque de foi, ou tout simplement parce que tu sais que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais ce soir, je voudrais te faire cet appel. Parce que la vie est tellement courte et parce qu'il est question de ton éternité. Si tu te dis ce soir, si tu te reconnais, c'est moi. Je ne suis pas convaincu d'être sauvé. Je voudrais te demander de te lever à ta place pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Là où tu es maintenant, c'est tellement important. si tu n'es pas convaincu d'être sauvé. Ne joue pas avec ton éternité. Est-ce qu'il y a encore une personne qui voudrait se lever ce soir? Quelqu'un qui n'est pas convaincu d'être sauvé pleinement. Quelqu'un qui dit, moi je veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Je réalise que je ne suis pas un animal. Je réalise que je ne dois pas fonctionner dans le péché, dans les choses naturelles. Moi maintenant, je veux donner mon esprit à Dieu. Je veux donner ma vie à Dieu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Alléluia. Alors que vous restez encore les yeux fermés, toi qui t'es levé, je t'encourageais maintenant à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme un cadeau. Tu peux recevoir un cadeau et tu ouvres tes mains pour le recevoir, ce cadeau. Mais avec le Seigneur, maintenant, ouvre ton cœur. Et dis-lui maintenant, Dieu, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie loin de toi, d'avoir vécu pour moi-même. Je veux m'abandonner maintenant à toi. Je décide aujourd'hui que je ne vivrai plus pour moi-même, mais que je vivrai pour Dieu tous les jours de ma vie. Dieu, fais de moi ton enfant maintenant. Pardonne mes péchés, s'il te plaît, parce que j'ai péché contre toi. Je veux devenir maintenant ton fils, t'appartenir à 100% et que tout dans ma vie te soit agréable. Seigneur Jésus-Christ, je déclare maintenant que tu es le Seigneur de ma vie. Par ton sang, tu me sauves. Par ton sang, tu me pardonnes. Merci pour ton sang précieux. Je déclare aujourd'hui que tu es mon sauveur. Tu me sauves et tu diriges ma vie. Je me donne entièrement à toi, de tout mon cœur. Amen. Amen. Tu peux te rasseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux t'encourager à voir un des responsables de cette maison et à partager ce que tu as vécu ce soir, l'expérience que tu as faite, que tu t'es donnée au Seigneur. Amen. On va maintenant...
Nous vous remercions d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, visitez le www.christenaction.com ou contactez-nous au 514-931-2954. À Christ en action, évangélisation, la foi est notre devise et la prière, notre mode de vie. Que le Seigneur vous bénisse.